Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par le groupe Angevin d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, il y a avec moi Erika et Philippe, bonsoir à vous.
Bonsoir Valérie. Bonsoir.
Dans cette émission, nous accueillerons Charline et Élise, les fondatrices de la maison Olympe. Nous parlerons également de l'actualité et nous finirons par l'agenda militant et culturel, sans oublier deux chroniques, bien sûr. Mais commençons tout d'abord par ton édito, Philippe. Tu vas faire le point sur les violences faites aux femmes.
Depuis sa création par les Nations Unies en 1999, la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes a lieu chaque 25 novembre dans plusieurs pays du monde. Son but, dénoncer les stéréotypes de genre et sensibiliser aux violences à l'égard des femmes. Cyberharcèlement, sexisme, agression sexuelle, mariage forcé, féminicide. Les femmes et les filles sont victimes de violences sexistes et sexuelles ciblées partout dans le monde.
Et quels sont les pays les plus dangereux pour les femmes ?
Prenons le Mexique. 10 femmes sont assassinées chaque jour en moyenne. L'impunité continue de prévaloir dans le pays. 98 crimes sur 100 au Mexique restent impunis. Cette négation de l'état de droit participe à favoriser la culture du viol. Mais la violence à l'égard des femmes et des filles englobe aussi, sans s'y limiter, la violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l'état.
Et puis on pense bien sûr aux femmes iraniennes.
Aou Daryaei est devenue une icône de la lutte contre le musellement des femmes. Après avoir été rappelée à l'ordre par des miliciens le 2 novembre, elle enlève son voile, se déshabille et déambule longue chevelure au vent en sous-vêtements devant la prestigieuse université Azad de Téhéran. L'image sidérante de cette jeune étudiante illustre le courage inouï des iraniennes face à la brutalité d'un régime. Elle a été violemment arrêtée et embarquée de force dans un véhicule, selon un média iranien. Elle a ensuite été transférée dans un hôpital psychiatrique. Une information extrêmement préoccupante.
Et le calvaire des femmes afghanes se poursuit.
Le peu qui leur reste de liberté continue de s'éroder sous le régime des talibans 3 ans après le retour de ces derniers au pouvoir. Dernière mesure en date, le ministre de la Vertu interdit désormais aux femmes de réciter le Coran à voix haute, même entre elles. Depuis août, les femmes afghanes n'étaient déjà plus autorisées à chanter ou lire à voix haute en public. Si elles peuvent quitter leur domicile, elles ont l'obligation de couvrir leur visage avec un masque et veiller à ne pas être entendues au risque d'encourir la prison.
Et que dit le droit international sur ces crimes de genre ?
Les experts du groupe de travail onusien sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles ont appelé à inscrire l'apartheid sexiste dans l'un des articles d'un projet de traité sur les crimes contre l'humanité actuellement examiné. La prix Nobel de la paix en prison, l'iranienne Narges Mohammadi, soutient cette proposition ainsi que Amnesty International. Signalons que la France ne fait pour l'instant pas partie des pays qui demandent l'ajout du crime d'apartheid au droit international.
Existe-t-il une législation européenne à ce sujet ?
Oui, la Convention d'Istanbul est le traité international le plus ambitieux en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle établit des normes minimales en matière de prévention, de protection, de poursuite et d'élaboration de politiques intégrées pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. À ce jour, 34 États membres du Conseil de l'Europe l'ont ratifié, 12 l'ont signé, y compris l'Union européenne. Mais certains pays se sont retirés, à l'instar de la Turquie.
Et en France, quelle est la situation ?
En France aussi, l'impunité autour des violences à l'égard des femmes existe. 73% des plaintes pour viol ou tentative de viol sont classées sans suite. Un pourcentage d'autant plus éloquent lorsqu'on sait que seulement 12% des survivantes avaient porté plainte. 94 000 femmes sont victimes de viol ou tentative chaque année selon le ministère de l'Intérieur. On a enregistré 121 féminicides de janvier à mi-novembre 2023, selon le collectif Nous Toutes. Et donc, une femme meurt tous les 3 jours en France.
Et pour terminer, tu veux mettre l'accent sur une héroïque défenseure des droits des femmes en Arabie Saoudite, que notre campagne, d'ailleurs, notre campagne mondiale, Changer leur histoire, met en avant à partir de fin novembre.
Oui, Manael El Al-Otaibi est une professeure de fitness, âgée de 29 ans. Elle a été arrêtée et inculpée d'infractions liées à la loi contre la cybercriminalité en raison de ses tweets en faveur des droits des femmes et de la publication sur Snapchat de photos d'elle sans abaya dans un centre commercial. Le 9 janvier 2024, à l'issue d'un procès tenu secret, Manaël a été condamné par le tribunal pénal spécial à une peine de 11 ans d'emprisonnement pour des infractions terroristes. Rappelons que l'Arabie Saoudite préside actuellement la 69e commission de la condition de la femme aux Nations Unies. Sans commentaire.
Merci Philippe. Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Charline et Élise, fondatrices de la Maison Olympe à Angers. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On vous avait déjà reçu l'année dernière à cette même époque. Alors quoi de neuf à la Maison Olympe ?
Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes ravis de pouvoir revenir parmi vous un an après. Je suis Élise Houdebine, je suis la cofondatrice de Maison Olympe. Nous avons ouvert les portes de Maison Olympe au mois d'octobre 2023. Et effectivement, depuis cette année, depuis une année, nous sommes ravis de voir tout ce qui peut se développer sur Maison Olympe. Donc pour rappel, Maison Olympe, c'est une association gestionnaire d'un centre de santé communautaire à orientation gynécologique. Et Maison Olympe, c'est aussi un pôle estime de soi où nous proposons des ateliers estime de soi.
Et donc, pourquoi le choix de ce nom, Maison Olympe ? Très joli nom d'ailleurs.
Bonsoir, je suis Charline. Merci beaucoup pour cette invitation. Nous avons choisi le nom pour cette association déjà parce qu'une maison, quand on a la chance d'en avoir une, est un lieu qui normalement est sécure et où chacune doit pouvoir se sentir en sécurité et en bienveillance et respecté dans ce qu'il est, et Olympe, évidemment, référence à Olympe de Gouges.
Ben oui, la révolutionnaire, bien sûr. Et j'ai vu sur votre site que vous proposez des consultations et également des ateliers d'estime de soi.
Tout à fait. Alors, on propose tout un panel d'ateliers. Tous les jours, il y a entre 2 et 3 ateliers au sein du pôle estime de soi. Notre proposition varie pour pouvoir proposer un maximum de possibilités aux personnes qui viennent dans ces ateliers. Donc, on va autant proposer des ateliers sportifs comme de la boxe-thérapie avec des partenaires. On va proposer des ateliers de relaxation, d'étirement, du shiatsu, mais aussi des activités manuelles. On crée ensemble des choses, des objets, par exemple. Mmh. Par exemple, pour Noël, on a eu la proposition de la part d'une Olympienne de fabriquer des cartes de Noël. On va avoir aussi des ateliers d'écriture. On a évidemment des groupes de parole. On a un projet qui s'appelle Oxygène, qui est un groupe de parole marché. Et on a aussi un projet qui s'appelle En route vers le jardin, qui est animé par une de nos collègues, Marion, qui travaille autour de l'arrivée de Maison Olympe dans un nouveau local d'ici un an. Et on aura la chance d'avoir un très beau parc qui sera transformé en jardin sensoriel thérapeutique.
Chouette. Alors là, vous êtes basée à Montplaisir. Au départ, est-ce que ce sont plutôt des femmes du quartier qui sont venues ou tout de suite de tout Angers, peut-être même du Maine-et-Loire, je ne sais pas?
Alors oui, on a été tout à fait volontaire de nous installer sur Montplaisir parce que ça avait du sens vraiment dans cette dynamique d'un quartier qui est en pleine évolution et qui est un quartier, un QPV, un quartier politique de la ville, et de proposer une offre en santé globale. Quand je parle d'une offre en santé, j'inclus aussi les ateliers estime de soi parce que nos missions sont vraiment de lutter contre les inégalités d'accès aux soins en prenant en compte tout ce qui vient impacter l'accès aux soins des personnes et notamment des femmes. Donc effectivement, c'est tout à fait volontaire d'être implanté sur Montplaisir et ce futur lieu sera également implanté sur Montplaisir.
J'ai remarqué aussi que vous proposiez des cours de français, mais un peu particuliers, non ?
Tout à fait. On a une approche assez innovante sur les cours de français langue étrangère, alphabétisation aussi. On a collaboré avec l'association Solisport Anjou pour la création d'un programme avec un référentiel précis. Donc on apprend la langue autour de la santé, du vocabulaire qu'on peut utiliser lors d'une consultation par exemple, savoir lire une ordonnance, savoir être en capacité de comprendre ce que nous donne le docteur ou la sage-femme. Et suite à ces cours de français, tout est repris en fait par l'éducateur sportif, donc Benjamin de Solisport, qui reprend exactement ce qu'on travaille en cours, et il le reprend par le sport. Donc ça va être des choses très concrètes, par exemple, il va créer des parcours où il va falloir courir le plus vite possible, sauter des plots, et puis aller lire un message qui est écrit sur un petit papier, et puis il y a des jeux comme ça qui se font, donc on se remet à travailler aussi le corps et le mouvement du corps, et le français en fait est très spontané, puisque du coup, les participantes s'interpellent spontanément en français.
Et vous travaillez avec combien de professionnels en général ?
Sur Maison Olympe, nous sommes 20 salariés. Mmh. Donc on est une grande équipe pluriprofessionnelle avec des personnes qui sont intervenantes sociales, des personnes qui sont soignantes, des personnes qui ont des postes administratifs. Et après, depuis déjà bien avant l'ouverture, on a travaillé énormément les partenariats avec d'autres associations, mais aussi d'autres lieux de santé, les instances également. Et effectivement, on a des associations partenaires avec qui on travaille, parce qu'effectivement, l'idée, c'est vraiment d'être dans une complémentarité de mission. Donc là, sur les partenaires, à la fois, il y a les partenaires des ateliers, donc qui interviennent spécifiquement pour un atelier, mais il y a aussi tout le travail en coordination avec tout le maillage, en fait, qu'il existe.
Alors, parmi les temps forts, il faut que j'en parle, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, enfin du moins ses romans, c'est Martin Winkler que vous avez eu la chance de rencontrer, que vous avez invité à la Maison Olympe. Alors, comment ça se passe alors, une rencontre comme ça?
Alors, effectivement, Martin Winkler, c'était un très beau projet qui a pu avoir lieu avec le partenariat avec une association Art Sensible, avec qui on a construit ce temps fort qui était sur une soirée autour de l'œuvre de Martin Winkler. Mais sur Maison Olympe, on attache énormément d'importance à décaler un petit peu le modèle de conférence centré sur une personne. Et comme on l'avait fait déjà avec une autrice, Claire Richard, on a vraiment voulu proposer quelque chose de très participatif. Et donc, en fait, on a pu travailler dans des ateliers avant.
Donc, on a pu mener des ateliers au sein de Maison Olympe avec différentes interventions. On a des bénévoles aussi qui sont formés au théâtre et qui sont venus animer des ateliers théâtre pour la prise de parole en public, par exemple. Mais on a fait tout un travail pour découvrir l'œuvre de Martin Winkler, qui est très connue, certes, mais pas par tout le monde. Et là, c'était vraiment une occasion pour travailler notamment sur la BD d'Aude Mermillot.
Le cœur des femmes.
Le cœur des femmes, exactement. Donc, on a
à
déjà
mettre entre toutes les mains. Le roman ou la BD.
Tout à fait. Donc, on a beaucoup travaillé sur les planches de la BD, notamment pour parler. Alors, nous, on s'est vraiment attaché parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont évoqués dans son œuvre, mais on a vraiment travaillé autour de la consultation gynécologique.
Et est-ce que vous recevez également des mineurs?
Alors, sur les consultations, on reçoit les mineurs. On a vraiment une orientation avec des soins en santé gynécologique. Dès qu'une personne a besoin de soins en santé gynécologique, elle peut venir en consultation. Et également, on propose des accompagnements psychothérapeutiques. Et effectivement, au même titre que tout autre lieu de consultation, sur les consultations, on reçoit des mineurs, avec la spécificité de la possibilité d'anonymiser en fait les consultations de demandes d'IVG, de contraception pour les mineurs. Et ça, on le propose également.
D'accord. Et vous avez des actions à venir à la Maison Olympe actuellement?
Alors, on a toujours les ateliers, effectivement, et puis évidemment toutes les consultations possibles et tous les suivis. Mais ça, Élise en a déjà parlé. Les ateliers se poursuivent. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est à 2 à 3 ateliers par jour. On conseille des inscriptions puisqu'aujourd'hui on fonctionne plutôt à flux tendu, donc la plupart des groupes sont complets. On aimerait pouvoir en proposer plus, donc on espère pouvoir développer encore plus nos actions. Mais effectivement, le travail quotidien continue.
Et on va parler un petit peu financement peut-être. Vous avez des subventions, des aides de l'État?
Oui, alors on est toujours accompagné depuis l'ouverture par l'ARS en fait, qui permet d'accompagner tous les projets en lien avec la santé sociale. Donc il y a vraiment des aides qui sont spécifiques pour les centres de santé, puisque les centres de santé sont des lieux où les professionnels sont tous et toutes salariés. Et donc où on propose des lieux axés sur la santé sociale. Donc on a des aides qui sont dans ce sens-là, côté médical en tout cas. Et on a aussi un accompagnement de la CPAM, justement pour ces spécificités de centres de santé avec des actions de prévention et des actions en santé sociale. Voilà.
Et donc toutes les personnes qui sont intéressées, soit pour vous rejoindre, soit pour bénéficier des services de la Maison Olympe, elles peuvent vous contacter où?
Alors Doctolib, bien sûr, sur les consultations.
Doctolib, on fait Maison Olympe.
Oui, tout à fait.
Ouais,
on
pratique.
Peut aussi pousser la porte. Nous sommes ouvertes tous les jours de 8h à 19h. Il y a un lieu que nous, on appelle un lieu d'accueil. C'est pas seulement un lieu d'attente. Donc, si on a des questions, on peut aussi tout à fait pousser la porte tous les jours de 8h à 19h et le samedi matin aussi. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre, pour prendre une inscription, pour expliquer les ateliers, accompagner aussi sur des consultations quand il y a besoin. Donc, ne pas hésiter à venir.
L'adresse de Maison Olympe?
3 rue de l'Écriture, on est juste à côté de la Maison pour tous, qui est un super partenaire aussi qu'on peut signaler, parce qu'on utilise beaucoup de salles notamment, mais pas que, le partenariat va bien plus loin.
Oui, sinon, vous êtes très visible dans le quartier, et c'est tant mieux.
Sinon, il y a le site, Insta.
Instagram surtout, ouais. Les programmes sont mis à jour. On a une page LinkedIn aussi qui commence à être en action. On a un Facebook qui commence à être activé également.
Merci beaucoup. Bien. On se retrouve après une pause musicale.
Accusé, annulé, avorté, attaqué, accusé, annulé, avorté, humilié, émietté, mortifié, humilié,
attaqué, accusé, humilié, harcelé, blâmé. Vous venez d'écouter Des mots, une chanson de Loupa de Lille, une artiste angevine engagée. De retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM, c'est bientôt l'heure des actualités, mais avant, découvrons la chronique de l'antenne jeune angevine d'Amnesty.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une situation qui inquiète la communauté internationale, les récentes attaques au Liban. En effet, depuis plusieurs semaines, la région est le théâtre d'une intensification des hostilités entre Israël et le Hezbollah, mouvement chiite libanais. Le 27 septembre 2024, une frappe aérienne israélienne a ciblé le quartier de Daïe, bastion du Hezbollah à Beyrouth, qui a entraîné la mort de son chef, Nassan Nasrallah. Cette opération, qualifiée de complexe, a nécessité près de 20 ans de préparation, depuis la guerre israélo-libanaise de 2006. En réponse, le Hezbollah a intensifié ses tirs de roquettes vers le nord d'Israël, notamment vers la ville de Safed. Cette escalade a conduit Israël à mener des frappes supplémentaires sur des positions du Hezbollah au Liban, notamment dans le sud du pays, la vallée de la Beka. Les conséquences humanitaires sont lourdes. Des centaines de civils ont perdu la vie et des milliers d'autres ont été déplacés, fuyant les zones de conflit. La ville de Sour, par exemple, a vu 40 000 de ses habitants quitter leur foyer. Sur le plan diplomatique, la communauté internationale appelle à la retenue. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence pour discuter de la situation, tandis que des pays comme la France ont exhorté à un cessez-le-feu immédiat. Cette nouvelle flambée de violence rappelle la fragilité de la paix dans la région et la nécessité d'une solution durable pour éviter une guerre totale aux conséquences imprévisibles. Merci pour votre écoute et à bientôt.
C'est maintenant l'heure des actualités d'Amnesty International et des droits humains.
Nous vous parlons régulièrement de la guerre qui a éclaté au Soudan en avril 2023. Depuis, plus de 23 000 personnes ont été tuées et 33 000 blessées, dont un nombre considérable de civils victimes d'attaques aveugles et délibérées. Le Soudan est actuellement touché par la plus grande crise de déplacement au monde et la dernière escalade du conflit a déplacé plus de 11 millions de personnes. Une toute récente enquête d'Amnesty International a permis de repérer dans plusieurs régions du Soudan des véhicules blindés de transport de troupes fabriqués par les Émirats Arabes Unis et équipés avec des systèmes de défense réactifs sophistiqués conçus et fabriqués par des entreprises françaises. Ceci constitue une violation de l'embargo de l'ONU sur les armes à destination du Soudan.
Sur la base d'une évaluation biaisée, l'organisation de la Coupe du Monde de foot 2034 est en passe d'être confiée à l'Arabie Saoudite, qui pourtant affiche un bilan désastreux en matière de droits humains. Les exécutions et les disparitions forcées sont en hausse, les droits des femmes réprimés, la liberté d'expression bafouée, les travailleurs exploités, les syndicats interdits et les personnes LGBTI+ discriminées. C'est pourquoi Amnesty et le Sport and Rights Alliance ont déclaré le 11 novembre dernier que la FIFA devait interrompre le processus de sélection de l'Arabie Saoudite, à moins que des réformes majeures en matière de droits humains ne soient annoncées avant le vote des membres de la FIFA le mois prochain.
L'UNRWA a été créée par l'ONU en 1949 pour fournir une assistance humanitaire aux réfugiés palestiniens. Mais en janvier 2024, plus d'une douzaine d'États et l'Union européenne avait annoncé suspendre leur financement à la suite d'accusations selon lesquelles des membres de l'agence avaient été impliqués dans les attaques du 7 octobre. L'agence avait immédiatement licencié 9 de ses employés. Depuis, presque tous les États qui avaient suspendu leur financement ont recommencé à la soutenir financièrement, à l'exception des États-Unis. Mais le lundi 28 octobre dernier, le Parlement israélien a adopté deux textes qui mettent un terme aux activités de l'agence onusienne sur son territoire et sur le territoire occupé palestinien. À cause de ces textes, l'agence ne pourra plus y opérer. Son siège devra être fermé, les visas pour son personnel supprimés. Les conséquences pourraient être désastreuses. Cette loi effroyable et inhumaine ne pouvant qu'exacerber les souffrances des Palestiniens et des Palestiniennes qui subissent des épreuves inimaginables.
En Turquie, grande victoire pour la société civile grâce au retrait de la loi dite sur les agents d'influence. Si le Parlement turc l'avait adoptée, cette nouvelle loi aurait entravé de multiples droits humains, notamment les droits à la liberté d'expression et d'association, et gravement menacé la capacité des organisations de la société civile à agir librement et à mener leurs activités légitimes en toute sécurité dans le pays. Avec sa formulation vague et trop générale, quasiment toute critique du gouvernement aurait pu entrer dans son champ d'application et être considéré comme une circonstance aggravante d'espionnage contre les intérêts de l'État. Belle victoire, mais il convient cependant de rester vigilant, car le danger demeure que ce texte de loi ne soit à nouveau déposé à tout moment.
Des membres de la société civile, des universitaires et des artistes du continent africain et des diasporas africaines du monde entier se sont réunis entre le 14 et le 16 novembre à Berlin dans le cadre de la conférence décoloniale Berlin 2024. C'est un projet culturel qui mène un travail essentiel de réflexion sur le passé et le présent coloniaux de Berlin. Plus largement, les États européens n'ont globalement toujours pas rendu de compte pour les injustices historiques du colonialisme, l'esclavage, le commerce des esclaves et leurs séquelles qui persistent encore aujourd'hui. Les appels à réparation se heurtent à une certaine résistance et les gens sont obligés de naviguer dans des systèmes ancrés dans la colonialité et les déséquilibres de pouvoir. La conférence décoloniale de Berlin est donc l'occasion de montrer le pouvoir de la mobilisation collective et de partager les revendications afin d'obtenir justice et réparation pour les injustices historiques.
Écoutons maintenant la chronique de Céline qui nous parle ce soir des femmes migrantes laissées à la rue. Et c'est à toutes ces femmes, fortes et dignes, que nous dédions cette émission.
Bonsoir Valérie. Aujourd'hui, Je voudrais te raconter une histoire. L'histoire d'une femme. L'histoire de Safa. L'histoire de Safa appartient à Safa. Pourtant, elle est universelle, puisqu'elle est l'histoire de l'exil. Originaire d'Érythrée, elle a quitté son pays pour sauver sa peau. Qui ne le ferait pas dans l'espoir de pouvoir vivre mieux, vivre tout simplement. Après un périple éprouvant dont nous savons les dangers, les violences faites aux femmes, le courage qu'il faut pour continuer, elle arrive à Angers avec l'espoir de reconstruire son existence. Mais la réalité est cruelle. Comme beaucoup d'entre elles, elle est sans solution d'hébergement, sans lieu où se reposer, sans refuge possible. Sa vie n'est que survie. Il faut passer des heures au téléphone dans l'espoir d'une place au 115. Et quand ce n'est pas le cas, trouver un endroit pour dormir. Se cacher, souvent. Comment dormir quand on est une femme à la rue? Elle rencontrera aussi ceux qui ouvrent leurs portes pour une nuit ou deux. Il lui faudra attendre un point de rendez-vous, faire confiance sans connaître, sans savoir qui sont ceux qui l'hébergeront, mettre toute son énergie dans ce repos éphémère qui lui est offert avant de retrouver l'errance du lendemain. Pourtant, elle est forte, puissante de sa dignité, de son combat quotidien. Ceux qui la croisent ne savent pas qu'elle a, ne savent pas ce qu'elle vit, parce qu'elle a ce sourire lumineux, cette volonté de nous apprendre, d'apprendre notre pays. Et elle n'est pas isolée. Elles sont nombreuses, ces femmes invisibles, qui affrontent chaque jour la précarité et l'indifférence. Elles portent en elles des histoires de souffrance, mais aussi d'espoir et de résilience. Jamais nous ne devons oublier cette réalité insoutenable. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la détresse de ces femmes qui continuent de croire à un avenir meilleur. Leur courage doit nous interpeller, leur dignité nous oblige. Alors, à Safa, Sarah, Teber, Tamar, Victoria, Rim, Mariam, Valentina, Gloria, Arma et tant d'autres. Je dédie cette chronique à celles qui nous bousculent, nous bouleversent et nous montrent le chemin.
Nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et c'est le temps de l'agenda militant et culturel.
Concert récit autour de John Baez, féministe, pacifiste, le samedi 23 novembre à 20h30, salle Saint-Louis à Saint-Georges-sur-Loire. L'entrée est libre, soutien au chapeau.
Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Alors rendez-vous à Angers à 18h30 pour le départ de la manifestation du Palais de Justice jusqu'au ralliement.
À l'occasion du 50e anniversaire du jumelage Angers-Bamako, Cinéma et Culture d'Afrique propose la projection du film Cléma, réalisé par un cinéaste malien, Boubacar Gakou Touré. Dans ce film, ce cinéaste agriculteur engagé revient chez lui avec sa caméra pour tenter de résoudre la situation conflictuelle entre éleveurs et agriculteurs à laquelle vient s'ajouter depuis quelques décennies le changement climatique, contribuant fortement à la restriction des terres cultivables.
Le samedi 7 décembre, conférence débat sur le thème « Quelle résistance idéologique et culturelle a développé contre la montée de l'extrême droite ?» C'est la salle Pelloutier à la Bourse du Travail, place Imbach à Angers. Cela commence à 14h.
La grande campagne de pétition d'Amnesty International se tiendra comme chaque année en décembre. Nous vous donnons rendez-vous à la médiathèque de Montplaisir les 4 et 7 décembre et à la médiathèque Toussaint entre le mardi 10 et le samedi 14 décembre.
Lundi 9 décembre à 17h45 au lycée Jean Bodin, les Ponts-de-Cé. Conférence débat, agir pour une laïcité constructive avec Najat Vallaud-Belkacem, présidente de France Terre d'Asile, et Elisabeth Alain Moreno, secrétaire générale SEUNSA.
Et n'oubliez pas le rendez-vous, hélas, hein, chaque samedi encore à 15h, place Mondin-Champlouineau, devant Fleur d'Eau ou bien place du ralliement, pour exiger le cessez-le-feu à Gaza. Il est déjà presque 19h30, le temps de conclure cette émission. et de remercier Charline et Elisa pour leur venue. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook à amnesty.angers. À bientôt sur les ondes de Radio G.
À très bientôt.
Au revoir.
Bonne soirée.